les jardinières.
Le soleil est de retour et les températures remontent gentiment. La nature se réveille et les jardinières aussi. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, bonjour à tous. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Philippe Détra, notre spécialiste. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, bonjour.
Ce matin, c'est vous Philippe qui avez la chance de répondre aux questions de nos auditeurs. On rappelle que vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel et propriétaire du Jardin des Senteurs. Vous pouvez lui poser vos questions à Philippe. Et pour ça, Mylène, trois possibilités.
Oui, par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez « jardin », un espace suivi de votre question et vous nous envoyez ce message au 939 ou par formulaire disponible sur nos sites internet sous l'onglet « Émissions, questions aux jardinières » avec la possibilité de joindre une photo. Bon début de week-end et bienvenue chez les jardinières.
7h, 8h, les jardinières.
Philippe, le printemps arrive à grands pas, les premiers bourgeons explosent, les grenouilles pondent leurs œufs et les oiseaux préparent leur nid. Oui, c'est vrai, je l'ai vu.
Vous avez été contrôlé, Mylène
aussi.
Oui, j'ai des œufs dans mon étang, c'est trop mignon. Mais alors, Philippe, à part les œufs, on va laisser tranquille, qu'en est-il des tâches au jardin?
Bon, alors au niveau des jardins, donc on parle d'extérieur, les légumes, ben, on va commencer à planter. On peut commencer déjà à planter les bulbies pour les bulbes consommables, donc ail, oignon et compagnie, échalotes. On peut travailler aussi sur les plantes aromatiques, on peut les diviser, les replanter, les rendre un petit peu plus petites, les tailler. Pour que ça pousse mieux. Les arbres fruitiers, ben c'est peut-être ben vu que ça n'a pas encore vraiment débourré, ben on peut les tailler. Faut se dépêcher. Les rosiers, c'est le bon moment pour tailler les rosiers parce que si on le fait trop tôt, eh bien il y a des risques que les jeunes bourgeons qui sortiraient s'il fait beau gèlent. Mais bon, on n'a pas eu de gel donc ou très peu. Donc ben voilà, cette année c'est comme ça. Voilà, donc il y a quand même pas mal de boulot. Là, c'est vraiment maintenant il faut se réveiller quoi.
Il faut se réveiller et vous avez raison d'avoir choisi les jardinières puisque Philippe Détra est avec nous jusqu'à 8h et vous pouvez poser vos questions à notre professionnel de la branche. Vous pouvez le faire trois possibilités par téléphone 0901 70 20 20, c'est 36 centimes la minute. Vous êtes avec nous en direct et vous posez directement votre question à Philippe Détra. Et si vous êtes un peu plus timide, vous avez l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous envoyez tout ça au 939 ou par le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières avec bien sûr la possibilité de joindre une photo.
Merci d'avoir choisi les jardinières pour accompagner votre réveil. Tous les samedis matin entre 7h et 8h, c'est les jardinières qui répondent à vos questions. Ce matin, nous sommes en compagnie de Philippe Détra, horticulteur bio à Neuchâtel. On va se lancer directement dans les questions, Philippe. On va parler graines. Paul a lu sur son paquet de graines de haricots qu'il fallait semer en poquet. Il a cherché en quoi cela consistait sur le net. Alors, il nous dit que c'est plusieurs graines par trou.
Exact.
Et il aimerait savoir si c'est important de respecter ce qui est noté sur le sachet de graines.
Ouais, je pense que quand même, c'est pas mal. Donc, c'est effectivement plusieurs graines placées ensemble dans un trou. Après, ça dépend des plantes que l'on va semer. Par exemple, vous achetez un pot de persil. C'est pas juste une petite tige qui va sortir du pot. Donc, pas juste une petite graine qui a été semée. C'est 10, 15 graines qui ont été semées côte à côte et de façon à ce que ça donne une jolie touffe.
C'est sympa comme expression semée en poquet.
Ouais.
Je
sais pas d'où ça vient.
Il y en a d'autres, il y a semé, si je me trompe pas, hein, parce qu'il y a à la volée.
Ouais, c'est avec l'auguste geste du semeur.
Auguste. On lance les graines, voilà. Va, c'est ça?
Ouais, exactement, comme pour semer le gazon.
Voilà, et d'autres encore?
Ouais, alors on peut faire graine par graine. Nous, on sème certains légumes graine par graine dans une petite alvéole. Alors, comme on fait des petites quantités, bon, on le fait à la main. Parfois, on a des graines qui sont enrobées, c'est-à-dire avec une petite couche d'argile, de façon à ce qu'elles soient plus saisissables que certaines qui sont toutes plates, toutes petites, minuscules. Et puis, pour ceux qui sèment à grande échelle, c'est des semoirs pneumatiques qui aspirent les graines, qui les recrachent dans des alvéoles. C'est l'industrie, quoi.
Ça perd son charme.
Un petit peu. On enchaîne avec une autre question. Bonjour, j'aimerais planter diverses plantes aromatiques, persil, basilic, marjolaine, estragon. J'ai la place de le faire soit directement en pleine terre, soit en pot. Que me conseilleriez-vous de faire?
Bon, déjà, c'est pour planter. Ok. Moi, j'ai vu quelques genres de plantes qui sont notées sur ma petite feuille là. Donc, il faut faire attention au type de plante. Voilà. Entre un basilic et un thym, par exemple, ça a beau être de la même famille, le basilic ne va pas supporter le moindre petit coup de froid.
Ok.
Donc là, il vaut mieux le faire en pot à l'intérieur, pour autant qu'on soit équipé. Et puis, pour les thyms, alors thym, romarin, origan, enfin, les plantes vivaces, aromatiques, traditionnelles, il n'y a pas de souci, on peut les planter directement au jardin.
Merci beaucoup, Philippe, pour ces précisions. On enchaîne, Mylène, ou on part en musique?
On va partir en musique, on va juste rappeler comment faire pour nous joindre, par exemple par téléphone au 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute, mais vous pouvez parler directement à
bonjour
Philippe.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà.
Bonjour, monsieur.
C'est exactement ça, vous êtes poli, vous vous dites bonjour à Raphaël qui prendra le téléphone. Sinon, vous pouvez le faire par SMS, vous tapez jardin un espace votre question, vous nous l'envoyez au 939 et ou bien alors via le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, avec la possibilité de joindre une photo.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières sont avec vous jusqu'à 8h. Vous pouvez poser vos questions à Philippe Détrat qui répond avec plaisir à vos questions jardinage. Raphaël, nous avons reçu un téléphone, mais apparemment la personne était un peu timide.
C'est exactement voilà. Ça, Mylène. Jean nous a téléphoné pendant la petite pause musicale et il m'a confié la mise en place des questions. Il y en a quelques-unes. Déjà, on va parler, Philippe, de pelouse, de gazon et surtout de l'espacement des travaux. Jean aimerait savoir un petit peu l'ordre de comment ça se passe, les travaux, la tonte, la scarification. Et déjà, dans quel ordre on fait pour avoir une belle pelouse pendant l'été?
Pelouse un green ou bien juste un gazon, parce que avoir une pelouse complètement propre, nickel, super, c'est extrêmement dur. Donc il faudrait la scarification, on le fait en général dès qu'il fait un petit peu chaud, donc au mois d'avril, mais je suis pas paysagiste, hein, je tiens à le préciser, donc ça c'est vraiment pas mon job principal, mais moi je scarifie chez moi au mois d'avril ou éventuellement au mois de septembre, puis ensuite on fait un sursemis, c'est-à-dire avec pour remplacer un petit peu tout ce qu'on a enlevé, mousse, mauvaises herbes, etc., eh bien, on va semer de nouveau des nouvelles graines de gazon qui vont remplir les espaces libres.
Et justement, Jean me posait la question, le traitement, parce qu'il m'a avoué avoir quelques mauvaises herbes, est-ce qu'il y a un bon traitement que vous conseilleriez, Philippe, pour le traitement contre les mauvaises herbes?
Alors, je vous rappelle que je suis en bio, donc je ne suis pas très traitement. Je sais que ça peut se faire, il existe des désherbants sélectifs qui détruisent les mauvaises herbes à feuilles larges, puisque le gazon est à feuilles étroites, et puis ça s'utilise aussi juste avant la scarification, si c'est encore autorisé. Ça, là, je n'ai pas l'info.
Et puis, pour terminer, peut-être un bon engrais, justement, pour avoir un beau gazon. Peut-être bio, l'engrais, justement.
Un engrais pour gazon.
Un engrais pour gazon, tout simplement.
Ça existe, et puis ça existe aussi en bio.
Eh bien, écoutez, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions de Jean. J'en avais pas mal. J'ai essayé de synthétiser tout ça pour pouvoir répondre au mieux à ces questions. Ma chère Mylène, on peut enchaîner.
On nous a reçu une question par SMS de Nicolas de Colombier qui nous dit « Bonjour, j'ai un oisetier de 140 cm dans un gros pot sur mon balcon et il n'a fait aucun bourgeon. Est-il mort? Car devrait-il déjà avoir commencé à faire des feuilles, Philippe ?»
Des feuilles, je pense pas. Par contre, les inflorescences, oui. Les inflorescences devraient déjà être apparentes. Maintenant, pour vérifier si son arbuste est mort ou vivant, moi je lui conseille de gratouiller un petit peu l'écorce avec l'ongle. Et puis s'il y a un petit peu de verdure dessous, eh bien c'est que la plante va se réveiller. Elle a peut-être aussi juste manqué d'eau, c'est tout.
Ce qu'on appelle inflorescence, c'est ces espèces de petites tubes jaunes.
Ouais, ouais, c'est les groupes de fleurs. Les fleurs groupées ensemble, c'est des inflorescences.
Ah, donc ça, c'est des fleurs.
Ouais, par exemple, la marguerite, c'est pas une fleur, c'est une inflorescence. C'est un groupe de fleurs qui se sont mises ensemble pour être plus belle, attractives.
Donc là, on peut voir déjà hein, les noisetiers dans la nature qui sont en fleurs, en fait. Ils sont facilement repérables.
Moi, j'en ai un ou deux qui sont déjà, qui ont ces fleurs qui pendent, qui pendouillent.
Ne pas hésiter à aller faire une balade, les repérer comme ça, à l'automne. On peut aller ramasser les noisettes.
Par exemple.
Merci Philippe. Raphaël, je pense qu'on va rappeler les numéros pour nous joindre.
Exactement, 0 900 170 20 20, ça c'est pour être en direct avec nous, parce que vous avez remarqué, hein, quand je prends les informations, j'essaie de synthétiser et j'ai peut-être pas forcément les mêmes questions que vous, puisque sur un temps limité, c'est pas évident. Donc vous êtes en direct et vous posez vos questions directement à Philippe, notre spécialiste. Et justement, si vous êtes plus timide, optez pour l'option SMS, vous envoyez jardin, un espace suivi de votre question et vous nous l'envoyez au 939, ou encore mieux par le formulaire disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émissions, questions aux jardinières, et là vous avez même la possibilité de joindre une photo de votre plante.
Les jardinières.
Jusqu'à 8h, vous êtes en compagnie des jardinières, on cause jardinage et on répond surtout à vos questions. Ce matin, c'est Philippe Detra, horticulteur bio à Neuchâtel, qui est là pour vous.
Et ces questions, vous pouvez nous les poser en direct par téléphone 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire également par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et vous nous envoyez ce tout au 939, ou vous pouvez encore avoir la troisième solution par formulaire disponible sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Comme l'a fait Danielle de Auvergnier, elle nous dit « Bonjour, j'ai un frangipanier que j'ai mis dans un endroit clair, mais frais pour l'hiver. Il a perdu toutes ses feuilles, mais maintenant il a toutes les extrémités qui sont devenues noires et très souples. Que s'est-il passé ?» Elle vous remercie pour votre réponse et vous souhaite une belle journée, Philippe.
Oui, alors le frangipanier, son nom latin c'est Plumeria, si j'aime, c'est joli. Hein,
c'est joli.
Voilà. Et puis c'est une plante qui vient d'Asie, en principe elle est aussi acclimatée en Afrique, elle est tropicale. Donc frais, c'est quoi frais? Alors j'ai vite fait un petit contrôle sur ma tablette, on lit que ça peut aller jusqu'à 5 degrés de frais. Moi, franchement, je ne descendrai pas en dessous de 15. Voilà, donc, il a peut-être ramassé un petit coup de froid et non de frais. Donc, ça, c'est bien possible. Donc, s'il est tout mou, il est mal barré.
Il y a des solutions?
Non, s'il est tout mou puis noir, donc ça, c'est probablement des extrémités qui sont mortes. Donc, éventuellement, couper, voilà, et puis raccourcir, puis voir si ça ressort. Maintenant, c'est une plante qui est assez délicate. En appartement, elle sera extrêmement sensible aux acariens. Donc, moi, c'est un truc que je ne fais plus, cette plante.
Est-ce qu'elle est belle, au moins? Parce que là,
oui,
l'air de dire que c'est difficile, mais...
Non, mais c'est super beau, quoi. C'est super beau, c'est très odorant, ça sent bon. Voilà, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas tout faire chez nous.
Bon, merci. Vous l'avez compris, Daniel, hein, c'est pas gagné hein, pour votre frangipanier, mais essayez, tentez, et puis tenez-nous bien sûr au courant évidemment de l'évolution de cette plante. Je vous propose, Mylène, d'enchaîner avec une autre question. Bonjour, j'aimerais planter un pied de vigne chez moi, on aime manger le chasselas comme type de raisin, nous habitons à 700 mètres d'altitude, pensez-vous que c'est possible? Et si oui, quel conseil pour bien démarrer et imaginer manger notre raisin cet automne?
Ok, 700 mètres, c'est jouable. C'est jouable. Donc il faudrait s'approcher d'un pépiniériste ou d'une jardinerie, ce qu'on appelle garden centre, là. Je préfère le mot jardinerie, qui vendent, ou alors d'un vigneron, mais je ne sais pas où sont ces 700 mètres, si c'est Jura, Neuchâtel ou ailleurs. Donc là, j'aurais pu un petit peu aiguiller, mais sinon, il faut demander un horticulteur confirmé des choix.
Comme vous.
Mais c'est jouable.
On peut vous demander à vous.
Ouais, on peut, mais je ne suis pas à 700 mètres, mais voilà. Le mieux, c'est toujours de s'approcher d'un spécialiste qui est plus ou moins à la même altitude. Il saura mieux donner les conseils.
Ah, ça, c'est un bon conseil que vous nous donnez là, Philippe. Merci. On va partir sur une question tomate. J'ai vu sur Internet un tuto pour planter des plantes tomates tête en bas. C'est-à-dire que la plante sort depuis le dessous du seau et est suspendue. Alors, quels sont les avantages de planter ainsi et est-ce une bonne idée?
On marche sur la tête, là. Ouais.
Alors, moi, il faut dire que Philippe ne connaissait pas ça et il a regardé tout à l'heure une ouais. la vidéo.
Oui, mais c'est ce que le petit internet.
Ça l'a beaucoup fait rire. Donc, voilà. Pour lui, c'est une hérésie. On peut utiliser ce mot?
Bah, complètement. J'ai lu que c'était pour gagner de la place au sol. Bon, bah, ok. Mais toutes les idées ne sont pas forcément des bonnes idées.
Surtout sur Internet.
Voilà. Ouais, j'en sais rien. Il faut bien se dire une chose, c'est que la plante, si elle pousse dans le sens vertical, si la végétation pousse contre le haut, c'est pas pour rien. Donc pourquoi est-ce qu'on va tenter d'inverser tout, quoi? C'est juste une couillonnade, à mon avis. Voilà. D'autant plus que quand on va arroser, eh bien, l'eau, elle va descendre, elle va pas commencer à monter pour aller vers les racines. Donc, moi, je pense que c'est une fausse bonne idée.
Merci, Philippe.
C'est au moins le mérite d'être clair, au moins.
On va rappeler les numéros pour nous joindre par téléphone au 0901 70 20 27 36 centimes la minute et la chance de parler directement à notre jardinier ce matin, Philippe Detra. Ou alors vous avez le SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 et toujours le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières. Raphaël, je propose qu'on fasse encore une question avant une pause musicale.
Avec plaisir. Nous aimerions agrémenter notre jardin de quelques plantes vivaces. Cette personne nous précise qu'elle vit au Val de Travers. Pourriez-vous nous conseiller quelques plantes à entretien facile?
Oui, bien sûr.
Voilà, vivace, merci beaucoup Philippe.
Plantes vivaces à fleurs ou plantes vivaces aromatiques? Bon, je suis plutôt les aromatiques. Je connais aussi passablement bien les vivaces. Mais ça rejoint un petit peu la réponse que je viens de donner tout à l'heure. Il faudrait plutôt s'approcher d'un horticulteur qui est plus ou moins à la même altitude et qui pourra mieux vous conseiller sur la rusticité des plantes, donc la facilité qu'elles ont à passer l'hiver. Par exemple, le romarin à 700 mètres, moi j'essaye même pas. Le mieux, bon, je crois qu'il y a un ou deux horticulteurs à peu près à la même hauteur et pas très loin.
Vous aurez compris, hein, le conseil de Philippe, c'est de regarder avec les gens proches de chez vous, donc.
Avec ses collègues, voilà.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h, encore un petit quart d'heure, pour poser vos questions par téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou via les formulaires disponibles sur notre site internet. Ça se passe sous l'onglet émission questions aux jardinières. On va parler d'un arbre tout à fait de saison, Raphaël.
Exactement, nous avons un magnifique forsythia devant notre maison. Nous avons oublié de le tailler, il est déjà en bourgeon, quasiment en fleurs. Doit-on attendre pour le tailler et comment et quand le faire?
Ok, alors s'il est déjà au printemps, on ne touche pas, punct. On ne touche pas à cet arbuste, on le laisse fleurir. Et puis je vais rebondir sur la taille des arbustes à fleurs en général, que ce soit des arbustes qui fleurissent au printemps, tôt au printemps, un petit peu plus tard ou en été, c'est toujours après la floraison. Toujours.
Je vous coupe, pardon. Le forsythia, on sait qu'il commence par faire des fleurs et ensuite des feuilles. Une fois qu'il est en feuilles, on peut tailler.
Une fois qu'il a fini de fleurir. Et ça, c'est valable pour tous les arbustes à fleurs. Une fois la floraison terminée, la plante va refaire des nouvelles pousses sur lesquelles elles fleuriront l'année suivante. Je sais pas,
oui,
c'est clair.
Oui, c'est clair. C'est très très clair. Merci Philippe. On va parler. On va rester dans les arbres. On va parler d'arbres avec des parasites. Est-ce que je peux pulvériser de la bouillie bordelaise sur des cerisiers et des pommiers? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée?
Oui, c'est une bonne idée. La bouillie bordelaise, en fait, on la trouve pas en Suisse. Ça veut dire qu'on est écouté même en France. La bouillie bordelaise, en fait, on la trouve en Suisse sous forme de d'autres noms commerciaux que je ne citerai pas. Mais c'est du cuivre, tout simplement. C'est du cuivre et ça a une efficacité contre les maladies, les champignons. Donc, ça n'a pas d'efficacité contre les parasites animaux. Pour ceci, il faudrait rajouter de l'huile de colza. Là aussi, il y a quelques sortes, des noms commerciaux que je ne citerai pas. Mais c'est de l'huile de colza, donc c'est des produits assez doux qui peuvent être utilisés même en bio.
Est-ce qu'on peut anticiper la venue du champignon? Parce que maintenant, on pourrait déjà pulvériser en se disant, si je fais ça maintenant, les champignons ne vont pas venir.
En gros, on va faire ça au moment de l'éclatement des bourgeons. Donc, au réveil de la nature.
À peu près maintenant.
Ouais, ça dépend à quelle altitude on est.
Et si c'est déjà les bourgeons déjà éclatés, c'est trop tard?
Non. Bah après, il faut respecter les dosages, évidemment, parce que si on fait trop fort, on risque de brûler les jeunes bourgeons ou les jeunes feuilles.
Merci Philippe. Raphaël, je vous propose qu'on enchaîne. On va parler de lavande.
Exactement. Une auditrice nous dit avoir reçu un pied de lavande. Il est actuellement dans un petit pot en plastique. Elle aimerait savoir si cette lavande serait mieux en pleine terre ou dans un plus grand pot. Ombre, soleil, bref, elle a besoin de vos bons conseils.
Alors, évidemment, elle serait beaucoup mieux en pleine terre, ça c'est sûr. Maintenant, tout le monde n'a pas de la pleine terre, donc si c'est un balcon, une terrasse, ça peut être mis dans un gros pot, ça ira très bien. Et puis la lavande, c'est évidemment une plante de plein soleil.
Et le vent, je cherche mes mots, pardon. Ouais. Est-ce qu'on doit faire attention au vent? Parce qu'on sait que le basilic, il aime pas les petits coups de froid. Est-ce que c'est pareil pour la lavande, ces plantes du sud?
Alors, c'est effectivement deux plantes qui sont de la même famille, mais qui n'ont pas les mêmes besoins. Le basilic, moi je dis toujours, c'est pas de soleil, pas de bise, pas de pluie. Donc c'est assez il faut essayer de trouver un petit coin cocooning. Alors que la lavande, c'est une plante de plein vent, de pleine terre. Elle est, faut pas trop la protéger non plus.
Et puis on peut la tailler, cette lavande.
Oui. Moi, je conseille toujours de le faire à peu près autour de maintenant. Comme ça, elle va faire des nouvelles pousses qui vont donner des fleurs durant l'été.
Merci beaucoup, Philippe.
Juste encore un petit truc pour la lavande.
Faites seulement.
Ne pas tailler sur du vieux bois. Voilà, donc il faut bien veiller à tailler cette plante chaque année, parce que certaines fois, on les laisse un tout petit peu pousser, puis tout d'un coup, on se dit « Ah, elle est vraiment trop grande, tiens !» Et puis, on la raccourcit, mais là, ça sort plus. Donc, les nouvelles pousses sortent plus. Donc, il faut vraiment toujours pas faire sur du trop vieux bois, et puis s'assurer qu'il y ait des petites pousses.
Merci beaucoup Philippe, il vous reste moins de 10 minutes pour poser vos questions, 3 possibilités, 0-900-1-70-20-20, ce sera la plus rapide et la plus efficace. Si vous voulez poser vos questions à Philippe Détra d'ici 8h, vous nous appelez pour 36 centimes la minute, sinon vous avez l'option SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et vous nous l'envoyez au 939 ou via le formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet questions aux jardinières.
Avec bien sûr la possibilité de joindre une photo, ce qui aide Philippe à répondre à votre question. On va parler de copeaux de bois. J'ai reçu des sacs de copeaux de bois qui viennent d'un atelier de menuiserie. Est-ce que ces copeaux ont une utilité au jardin, engrais ou autre?
Alors, comme engrais, non. Moi, je dirais non. On peut l'utiliser comme paillage, c'est-à-dire pour faire une couverture de massif. Au début, ce sera joli parce que ça sera joli brun, clair, voilà. Mais très rapidement, ça va virer d'aigle. Pas très joli, quoi. Et puis, il faut pas oublier une chose, c'est que moi, j'ai toujours été un petit peu réticent à mettre des copeaux de bois, de ce type de bois, comme du sapin, par exemple, au pied des massifs, des rosiers, des arbustes ou des choses comme ça. Tout simplement parce que ce bois, il va se décomposer au bout d'un moment. Et c'est normal, il va se décomposer. Donc, décomposition signifie champignons, genre de pourriture, qui pourrait, hein, je dis bien, attaquer les plantes que l'on souhaite mettre en valeur avec ça. Donc le mieux, c'est des copeaux c'est de l'écorce de pin. Ça se dégrade beaucoup plus lentement.
Merci Philippe. On a reçu un message qui nous dit « Bonjour, j'ai reçu une belle plante pour Noël. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Et est-ce que je dois la changer de pot ? Belle journée à vous, merci. » Alors c'est peut-être un peu difficile pour vous Philippe, mais on imagine... Une plante d'intérieur.
Ouais, une plante pour Noël.
Une plante, un ficus.
Ou une étoile de Noël, ou un cactus.
Je pense que la personne aimerait savoir si elle doit simplement la rempoter pour lui redonner un coup de vif ou quelque chose.
Alors,
comme ça.
Alors, probablement que si c'est une plante qui a été achetée, je dirais, en grande surface, c'est un pot. Faut pas oublier une chose, c'est que les plantes, lorsqu'on les achète, souvent sont dans des pots de culture. Donc, elles ont besoin de changer de chaussures et puis d'avoir un petit peu de matériel à manger, donc dans de la terre. Donc, moi, je pense que c'est bien de la rempoter. Et puis, à partir du printemps, c'est une excellente saison pour faire ce genre de choses.
Merci beaucoup Philippe. Entre-temps, Raphaël a répondu au téléphone, mais la personne, encore une fois...
Timidité. C'est Malou qui nous explique avoir une maison. Elle vit un petit peu à la campagne et elle est envahie de bestioles rouges qu'elle croit savoir s'appeler gendarmes. Alors vous nous direz Philippe si c'est le cas. Elle en a déjà tué des centaines, ça ne fait pas d'odeur, mais elle aimerait s'en débarrasser. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour se débarrasser des gendarmes, des bestioles, hein, pas des vrais gendarmes, hein, qu'on soit précis.
Oui, oui. Alors, si je ne m'abuse, ça doit être des punaises. C'est assez rigolo de les voir. D'ailleurs, en général, elles s'accouplent dos à dos. C'est assez poilant. Puis elles se promènent.
Peut-être qu'elle est gendarme aussi. Hein.
J'en sais rien. Elles se promènent deux par deux, comme ça. Elles ne font pas de dégâts. Hein, mais voilà. Je ne vais pas lui donner la réponse parce que je ne vais pas être un assassin de gendarme.
Elles sont super jolies à regarder, ces petites bestioles.
Ouais, alors je sais pas, faut mettre des voleurs un peu plus loin. Puis...
je suis pas sûr que ça réponde à la question à Malou, par contre.
Ouais, hein. je suis navré là. Mais...
Bon bah Malou, voilà, il faut pas tuer les gendarmes, tout simplement, voilà.
Merci Philippe, le temps file, il est déjà presque l'heure de se quitter. Mais avant, on va passer à notre traditionnelle question de fin d'émission. Ce matin, nous avons parlé de sujets divers et variés, de taille de
vignes, d'arbres avec parasites, de gazon.
Bref, nous avons parlé de beaucoup de choses. Philippe, qu'est-il possible de faire au jardin ce week-end? En plus, ils annoncent du beau pour demain en tout cas.
Ouais, alors juste pour revenir sur les gendarmes, on pourrait utiliser des répulsifs. Non, mais voilà, sans être trop méchant, c'est-à-dire des répulsifs, des purins d'ortie, des choses comme ça, qui pourront les faire fuir. Voilà. Donc, et puis pour ce week-end, ben moi je vais faire un petit peu de taille, tailler des rosiers. Ça se prête bien. C'est le bon moment, même s'ils ont déjà un petit peu débourré, c'est pas grave. On peut les raccourcir et ils repartiront d'autant mieux depuis la base. Je vais aussi tailler quelques arbustes chez mon ami. Voilà.
Et pas de semis encore?
Oui, alors on a commencé les semis cette semaine. On a fait des semis de légumes qui seront bons à mettre en pleine terre à partir de mi-avril, fin avril. Mais pas tout, juste des salades, des tomates. Et puis on peut semer des choses déjà en pleine terre. Hein, les petits pois par exemple, on peut attendre 2-3 semaines encore. Avril, c'est bien.
Si on commence maintenant, ça veut dire que, par exemple, vous plantez des petits pois maintenant ou dans 3 semaines, il y aura un écart de 2-3 semaines à la fin pour la récolte?
Ouais, pas vraiment, parce que ça rattrape assez vite dès qu'il fait un peu chaud.
Donc on ne peut pas espacer la plantation pour dire « Ah bah tiens, je vais en avoir
si.
Pendant... » Oui.
Si. Non, par exemple, on fait des séries de semis de salade tous les 15 jours pour en avoir toujours un petit peu. Parce qu'une fois que le planton de salade vient trop grand, ben on ne peut plus le planter. Il va monter en graines tout de suite, donc il ne va pas fournir une bonne laitue paumée.
Merci Philippe.
Merci beaucoup Philippe. Et bien rapidement, un petit conseil, parce qu'on voit qu'il n'y a plus de saison, on est un petit peu perdu avec la météo. Qu'est-ce que, malgré le printemps qui approche, il ne faut absolument pas faire au jardin ces temps? Question à l'opposé. Oui, je sais, je suis un petit peu fou moi ce matin.
Bon, vous auriez pu me prévenir là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Peut-être se croiser les pouces.
D'accord. Bah voilà, c'est une très bonne chose.
C'est vraiment le moment de, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se réveiller et puis et maintenant on attaque.
Merci. C'est parti. Donc merci beaucoup Philippe. On rappelle que vous êtes horticulteur bio à Neuchâtel et qu'on peut vous trouver au jardin des Senteurs. On vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à tout bientôt dans les jardinières, Philippe.
Yeah.
Ouais, merci.
La
bientôt.
Semaine prochaine.
Elle était déjà partie.
Oui, non, il est là encore. C'est Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy, qui sera parmi nous pour le premier week-end du printemps. Et si vous avez des questions, n'attendez pas samedi prochain pour nous les poser. Faites-le par formulaire ou par SMS. On se retrouve samedi prochain dès 7h. Bon week-end.
Bon week-end.
Pareillement.
7h, 8h. Les jardinières.